Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 9h15.
RTL Matin avec Jérôme Chapuis.
RTL 7h47, Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin le député socialiste de Seine-et-Marne et président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale.
Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Jérôme Chapuis.
Alors on vient de l'entendre, toutes les aides au logement vont baisser, les APL de 5 euros par mois à partir du mois d'octobre. Est-ce que vous allez vous y opposer de toutes vos forces ?
Bien entendu, parce que 5 euros pour des budgets importants, ça ne représente pas grand-chose, c'est l'argent de poche. Mais pour des publics qui gagnent moins de 1 000 euros par mois et qui sont visés par ces APL, eh bien ça représente par exemple le pain pendant une semaine. Et donc on a effectivement une décision qui est totalement inique parce qu'elle frappe indifféremment l'ensemble de ses bénéficiaires alors que rien ne devait les conduire à de telles mesures.
Qu'est-ce qui vous choque le plus ? C'est le fond ou la méthode ?
Bon, tout, mon capitaine. En réalité, tout est choquant. Je ne vois pas quelles sont les raisons qui ont pu motiver le gouvernement dans ce moment-là. La méthode, parce qu'il cherche à le renvoyer sur un héritage supposé, alors que tout indique que rien n'a jamais été prévu de la sorte par le gouvernement précédent. Et donc, on est dans une situation où on voit bien que, décision après décision, ce gouvernement fait les poches de ceux qui ne peuvent pas se défendre quand ils cherchent au contraire à réalimenter les poches de ceux qui ont déjà beaucoup. Je pense à la réforme de l'ISF par exemple.
Vous pensez avoir les moyens à l'Assemblée de faire plier le gouvernement ?
Écoutez, il n'y a pas que l'Assemblée, il y a l'Assemblée bien sûr, nous allons faire entendre notre voix, mais il y a aussi l'opinion publique, il y a aussi les sondages, il y a aussi la presse, il y a aussi ce mouvement qui naît depuis quelques heures et qui, je pense, indique clairement au gouvernement que s'il entend gouverner dans l'apaisement, cela suppose de sa part qu'il fasse en sorte de ne pas, un, travestir la réalité et, deux, prendre des décisions qui sont des décisions justes. Le redressement, c'est possible à une condition, c'est qu'on ne mette pas en danger la cohésion sociale.
Près de 100 millions d'euros d'économies sur les trois derniers mois de l'année, ce qui est quand même une économie importante, hein, c'est ce qu'avance le gouvernement, en baissant de 5 euros par mois pour chacun les allocations logement.
Écoutez, il y avait d'autres façons de procéder. Je pense par exemple à ce que le gouvernement précédent avait justement prévu, mais qui n'a pas été repris par l'actuel. Il était prévu de faire en sorte que les enfants de parents qui payent l'impôt sur la fortune ne puissent pas bénéficier des APL. Cette mesure-là, comme par hasard, elle a disparu.
Donc vous estimez qu'il vaudrait mieux conditionner les allocations logement aux ressources ou au patrimoine plutôt que de baisser uniformément les APL.
Bien sûr.
Derrière cette mesure, il y a quand même l'idée que l'on peut entendre que chacun, chaque Français, à son niveau, doit faire un effort, un petit effort.
Écoutez, vous pensez vraiment que les Français dont on parle, je rappelle qu'ils sont des Français qui gagnent moins de 1000 euros par mois, ne contribuent pas à l'effort national, vous pensez sérieusement que ces gens-là peuvent encore contribuer quand on les rencontre semaine après semaine, qui se posent la question de savoir comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont finir le mois, comment ils vont nourrir leurs enfants, et c'est à eux qu'on demanderait des efforts prioritairement, pendant que dans le même temps, pour accueillir les financiers de la City, pour ceux qui aujourd'hui ont un patrimoine en action qui est très important, pour ceux qui... on voit bien que les mesures à chaque fois sont dans du même ordre d'idée, y compris pour la taxe d'habitation, ce sont des gens qui ne la payent pas. Et donc à chaque fois, les mesures qui sont envisagées viennent frapper ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, alors que ceux qui ont visiblement quelques capacités de lobbying supplémentaires, eux sont à chaque fois entendus par le gouvernement.
Olivier Faure, vous, ce qui vous choque, c'est qu'on déroule le tapis rouge aux traders de la City après le Brexit en leur disant voilà, il y aura sans doute des mesures fiscales avantageuses pour les faire revenir à Paris et que dans le même temps, on baisse les allocations pour tous les Français.
Mais vous venez de dire à l'instant qu'on parlait de quelques centaines de millions. Je vous rappelle que ce gouvernement vient de décider que dès 2018, ce seront 2 milliards de moins que paieront les grandes fortunes, puisque désormais, elles paieront l'impôt sur la fortune sur les seules fortunes immobilières, mais qu'en revanche, sur les fortunes immobilières, sur les actions, eh bien, ils n'auraient plus à payer. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très choquant d'aller faire les poches des petits, quand pendant ce temps-là, pour les grands, on laisse les choses se dérouler, enfin même mieux, on revient sur des mesures qui étaient des mesures de justice et d'équité.
Alors, autre sujet dans l'actualité de ce début de semaine, Olivier Faure, début aujourd'hui à l'Assemblée nationale en séance de l'examen du projet de loi sur la régulation de la vie publique. moralisation de la vie publique, disait-on auparavant. Ça concerne notamment la fin de la réserve parlementaire, cette somme qui était à la disposition des parlementaires pour faire des dons à certaines associations. Vous n'avez rien contre ?
Rien contre. Moi, je n'ai. Enfin, je pense que cette loi de moralisation, elle est bienvenue. Pour le coup, beaucoup a été fait dans le précédent quinquennat, mais il faut maintenant terminer le travail et donc aller plus loin encore.
Donc, fin de la réserve parlementaire, interdiction des emplois familiaux.
Oui, par exemple. Mais sur la réserve parlementaire, moi, je souhaite que ce soit une réserve participative, que ce soit de l'argent qui soit sanctuarisé pour les communes, pour les associations, et que dans chaque circonscription, eh bien, on puisse réunir des collectifs citoyens qui aient à choisir avec les parlementaires l'attribution de ces sommes, pour que ce soit entièrement transparent, que ce soit absolument indiscutable, mais en même temps sanctuariser cet argent.
Parce que c'est important parce que ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le projet. Là, c'est suppression pure et simple de la réserve parlementaire. Ça, vous êtes contre?
Ce qui serait une erreur, parce que cet argent, il sert aujourd'hui, notamment dans le monde rural, dans les quartiers, à venir financer des projets qui ne le seraient pas autrement. Et je pense, dans ma circonscription, ça a été des city-stades, ça a été des associations qui n'auraient pas pu continuer alors qu'elles ont un travail d'intérêt général. Et donc, oui, il faut maintenir une somme qui permette de venir en soutien de ces associations ou collectivités locales, mais en même temps, il faut que ce soit transparent, ce qui l'est déjà, mais en même temps que ce soit participatif pour qu'on ne puisse pas accuser les parlementaires de clientélisme. Mais j'observe quand même que dans la République, les députés ne sont pas les seuls à distribuer des subventions. Il y a une réserve ministérielle. Les ministres ont une réserve qu'ils ne veulent pas supprimer. Il y a des collectivités locales qui distribuent des subventions. Et là aussi, il y aurait peut-être dans ces cas-là beaucoup à dire. Moi, je souhaite que dans tous les cas de figure, ce soit transparent et que ce soit participatif quand ça peut l'être.
Une chute importante de la popularité du président de la République. Un 10 points de baisse selon le baromètre mensuel IFOP pour le journal du dimanche. C'est un mouvement naturel 2 mois après une élection, ou bien c'est le signe qu'Emmanuel Macron en a trop fait ces dernières semaines?
Écoutez, il faut qu'Emmanuel Macron se rappelle qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il a réuni les suffrages de 12% des inscrits, ce qui en réalité est très faible. C'est très faible pour lui, c'était très faible pour tout le monde. Mais cela dit quelque chose quand même de l'état du pays. Il y a non pas un état de défiance, parce qu'il a, dans ses premiers pas, réussi à convaincre de sa capacité à assurer l'autorité de l'État. Mais on le voit bien, semaine après semaine, y compris dans cette volonté de se déguiser en permanence et de chercher à ressembler aux Français, les Français se sont dit, alors peut-être que... se déguiser, vous l'avez vu en standardiste, vous l'avez vu en militaire, vous l'avez retrouvé dans différents formats, eh bien, à chaque fois, les Français se sont dit, c'est ce qui m'a été répété ce week-end dans ma circonscription, que quelqu'un qui se déguise autant doit avoir beaucoup de choses à cacher.
En boxeur, au tennis, au touquet, tout ça, vous considérez que ça cache quelque chose ?
Je considère que, y compris, il y a eu 2 discours de politique générale, celui du président et celui du premier ministre. Et malgré tout, après ces 2 discours, eh bien, nous apprenons semaine après semaine de nouvelles mesures. Exemple, les APL. Mais ce n'est pas la seule mesure que nous avons apprise depuis. Sur les fonctionnaires, sur le jour de carence, sur le gel du point d'indice, sur la suppression d'un certain nombre d'entre eux. On voit bien qu'à chaque fois, ce gouvernement avance caché, masqué, et c'est ce qui crée le soupçon, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il n'a pas déroulé l'ensemble de son projet. Pendant la campagne présidentielle, il est resté étonnamment discret sur ce qu'il voulait faire. Il a essentiellement vendu le renouveau, mais ce renouveau ressemble diablement à l'ancienne politique.
Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été l'invité de RTL. Je retiens donc cette formule, un président qui se déguise autant doit avoir quelque chose à cacher. Vous êtes le président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale.